Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, dans les polycopiés, nous en sommes à la page 69, donc trois paragraphes avant la fin de la page, toujours dans ce traité des lois, donc il va de la question 90 à la question 108, dans la première partie, la deuxième partie. Encore une fois, je n'ai pas sur le polycopier l'ensemble des points de saint Thomas, parce qu'on ne peut pas tout faire. C'est une introduction à la somme théologique de saint Thomas. Et je vais compléter un petit peu ce qui manque au polycopier, afin d'avancer dans les explications que donne saint Thomas d'Aquin. Donc je vous rappelle la chose la plus importante, donc les trois conditions pour qu'une loi soit valide, il faut qu'elle soit une ordonnance raisonnable qui suit la loi de la raison, ayant pour but le bien commun et faite par celui qui a l'autorité légitime. Donc, rappelons-nous que toutes ces lois humaines sont en fait sous l'autorité de la loi naturelle. Une loi humaine qui irait contre la loi naturelle serait absolument invalide et ce serait un péché de la suivre. Mais puisque la loi naturelle est une participation de la loi éternelle, donc en bas vous avez la loi humaine, au-dessus la loi naturelle et encore au-dessus la loi naturelle. C'est pourquoi, dit saint Thomas, cette loi naturelle demeure sans changement, donc elle tient ce caractère de l'immutabilité, de la perfection de la raison divine qui a constitué la nature. Donc, quand on touche à quelque chose d'immortel, qui ne peut changer, d'immutable plus exactement, qui ne peut changer, on touche déjà à la divinité. C'est pour ça que la loi naturelle déjà nous parle de Dieu, nous amène à Dieu. Dieu est immutable, Dieu est immuable, ne peut changer. Et bien donc la loi naturelle participe à cette immutabilité divine. Au contraire, la raison humaine est changeante et imparfaite. Il y a une perfection de la loi naturelle qu'il n'y a pas dans la loi humaine. Donc la loi humaine, elle est modifiable. Et dans certains cas, doit être modifiée parce que les lois peuvent changer sur certaines choses à condition, bien entendu, d'être toujours fidèle à la loi naturelle. La loi naturelle ne contient, dit saint Thomas, donc quelques préceptes universels qui demeurent toujours. Au contraire, la loi établie par l'homme contient des préceptes particuliers selon les divers cas qui se présentent. Cependant, saint Thomas va donc insister pour bien expliquer que même si la raison humaine est changeante et imparfaite, même si la loi humaine doit changer et est imparfaite aussi par nature, il faut quand même, dans toute la mesure du possible, garder les coutumes. Les coutumes sont très importantes parce que les coutumes, justement, permettent une stabilité. C'est un point fondamental aujourd'hui. Un des travaux de la Révolution, un des objectifs de la Révolution a été de changer, justement, de modifier ces coutumes. Non pas les modifier, mais les supprimer complètement pour que les choses changent tout le temps. On dit que pierre qui roule n'amasse pas mousse. De la même façon, on ne peut pas établir une société avec des lois humaines qui changent tout le temps. Et c'est ce qu'ils font actuellement. Ils changent tout le temps les lois pour qu'il n'y ait plus de base, de fondation pour les familles et pour les enfants surtout. Comme tout change, eh bien, Les lois changent, donc la nature change, pour eux tout change, et ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui, et ce qui est vrai aujourd'hui sera plus vrai demain, donc ça ne sert à rien de chercher la vérité, mais c'est de découvrir où est la vérité, puisque de toute façon tout change. Et voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin, d'après l'enseignement du passé, on peut pourvoir à l'avenir, on dit que celui qui a le passé, il a le présent, il a le futur, et c'est très vrai. Et donc une des choses qu'a fait la révolution, toujours, toutes les révolutions travaillaient comme ça, la révolution antichrétienne, ont toujours travaillé de la même façon, avec cette phrase classique, du passé faisons table rase, coupez les racines. Coupons les racines pour que les individus n'aient plus de possibilité de s'aligner sur le passé. Et n'oublions pas que la fondation du prolétariat, de la révolution, c'est le prolétariat selon Karl Marx. Prolétariat c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a plus de racines. Pour couper les racines, il faut couper les coutumes. Couper les coutumes, et donc le pauvre homme, n'ayant plus de coutumes pour le guider plus ou moins vers la loi naturelle, eh bien, va être comme la poussière poussée par le vent et fait du n'importe quoi. Et saint Thomas va jusqu'à dire que c'est une honte ridicule et pleine d'impiété que nous laissions violer les traditions reçues jadis de nos pères. Donc, pour pouvoir garder la loi naturelle, garder tout simplement l'équilibre d'une société, mais il faut garder les traditions. Tradition familiale, tradition sociale, tradition même, tradition politique, qui était au temps des anciens, dire au temps où notre Seigneur Jésus-Christ était vraiment le roi de la civilisation. N'oublions pas qu'en France, il y a eu un temps où l'évangile était vraiment, comme dit le pape Léon XIII, l'évangile était vraiment prêché et pratiqué. Au XIIIe siècle, même si le XIIIe siècle n'était pas parfait, il ne faut pas dire que le XIIIe siècle est parfait, que tout allait parfaitement bien. Non, il y avait des bandits au XIIIe siècle. La différence entre un bandit du XIIIe siècle et un bandit du XXIe siècle, le bandit du XIIIe siècle savait très bien qu'il était un bandit et qu'il fallait qu'il fasse attention parce qu'un jour il allait mourir, qu'il allait devoir rendre des comptes à Dieu et qu'il, déjà ici-bas, il aurait à rendre des comptes à la société politique et civile. Le bandit d'aujourd'hui est considéré par la société, par les gouvernances politiques, comme un héros, littéralement, et qui a tous les droits. Alors, c'est la raison pour laquelle une loi humaine était changée à juste titre dans l'ancien temps, dans la mesure où son changement profitait au bien public. N'oublions pas qu'une des conditions pour qu'une loi soit légitime, c'est qu'elle concerne le bien public. Donc, si une loi, le changement d'une loi ne profitait pas au bien public, il ne fallait pas la changer. La modification même de la loi, dit saint Thomas, en tant que telle, nuit quelque peu au salut commun. Car pour assurer l'observation des lois, l'accoutumance a une puissance incomparable à ce point que l'accoutumance, pour assurer l'observation des lois, l'accoutumance a une puissance incomparable à ce point que ce qu'on fait contre l'habitude générale, même s'il s'agit de choses de peu d'importance, paraît très grave. Parce qu'on déstabilise la société. C'est pourquoi lorsque la loi est changée, dit saint Thomas, la force coercitive de la loi diminue dans la mesure où l'accoutumance est abolie. Et c'est ce qu'ils ont fait avec la Révolution, c'est détruire toutes les lois qui stabilisaient la société. Prenez l'exemple de la Révolution dite française en 1789. Quel est le premier changement opéré par les révolutionnaires? La destruction du principe corporatif. Pourquoi toute la politique, toute la société du Moyen-Âge, pas du Moyen-Âge, la société oui, du Moyen-Âge déjà, était fondée sur les corporations, fondée par Saint-Louis, et les corporations étaient encore très florissantes au XVIIIe siècle. Et la Révolution, par la loi Le Chapelier, va détruire le principe corporatif pour, en quelque sorte, couper d'un seul coup toutes les racines sociales, toutes les racines économiques, toutes les racines politiques du pays. Du passé, faisons table rase. C'est pourquoi, lorsque la loi est changée, la force coercitive de la loi diminue. Et donc, évidemment, il est plus difficile à ce moment-là pour les gens de suivre le bien commun. C'est pourquoi, dit saint Thomas, ne doit jamais modifier la loi humaine, à moins que l'avantage apporté au bien commun contrebalance le tort qui lui est porté de ce fait. Mais les lois tirent leur plus grande force de l'habitude, selon Aristote, c'est pourquoi il ne faut pas les changer facilement. D'où la stabilité des lois du Moyen-Âge, parce que justement l'influence de l'Église sur le principe corporatif permettait une grande stabilité politique, sociale et économique. Chaque corporation, comme vous le savez, était justement protégée par ce qu'on appelait l'évêque protecteur. L'évêque protecteur, qui était au-dessus du grand chef humain de la corporation, l'évêque protecteur représentait en quelque sorte l'autorité de Dieu sur la corporation. Alors, essayons de continuer un petit peu avec les textes de saint Thomas qui ne sont pas dans le Polycopion. Encore une fois, je n'ai pas pu tout mettre et tout écrire. Donc saint Thomas va insister sur la puissance de la loi humaine qui doit être en rapport avec le bien général. Il va insister là-dessus, c'est surtout la question 96 et 97 de la prima secundae. Alors, la loi humaine, dit saint Thomas d'Aquin, en reprenant saint Augustin d'ailleurs, la loi humaine, faite pour régir le peuple, permet avec raison des choses dont la divine providence tire vengeance. La loi humaine ne peut pas tout contrôler, c'est impossible. Et donc il y a des choses qu'il faut tolérer, parce qu'on ne peut pas faire autrement, et puis le bon Dieu s'occupera de cela. Donc les lois humaines, sans vouloir empêcher tous les vices que les gens vertueux évitent, se bornent à proscrire les plus graves péchés, dans lesquels surtout la majorité du peuple peut ne pas tomber. Et spécialement, dans lesquels la majorité des peuples ne doit pas tomber, spécialement les crimes préjudiciables à la société, comme le vol, l'homicide et les autres pareils. Donc sur toutes les grands péchés, si vous voulez, publics, les péchés sociaux surtout, donc la loi humaine doit intervenir. Mais la loi humaine ne peut pas intervenir dans tous les petits détails, dit saint Thomas. Donc, saint Thomas donne une raison en disant qu'il ne faut pas imposer les préceptes de la vie parfaite à des hommes imparfaits. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et on essaye d'aider les gens à vivre en état de grâce, c'est sur la loi naturelle. Cependant, malheureusement, une autorité politique, même dans un régime saint, saïen, et saint et saïenté, dans un régime politique, même sous Saint-Louis, il y avait des choses que Saint-Louis était obligé de tolérer, tout simplement, parce qu'il n'avait pas le pouvoir de supprimer les conséquences du péché originel. Il y avait des choses que Saint-Louis a dû tolérer, et il a dû tolérer, évidemment, certaines choses qui ne sont pas bonnes en tant que telles, mais qu'il a bien dû tolérer à cause, malheureusement, du malheur des temps, à cause du fait que, encore une fois, il n'avait pas un contrôle total sur les âmes. Le contrôle politique, juridique, législatif du roi sur une société n'empêche pas le libre arbitre des citoyens qui sont sous le roi. Et donc, malgré tout, Saint-Thomas a dû tolérer, Saint-Louis, roi de France, a dû tolérer des choses. On dit que c'est lui qui a même dû organiser, je m'excuse du détail, mais ça donne un peu une idée, ça comprend la sagesse de Saint-Louis. On dit que c'est Saint-Louis justement qui a organisé les maisons closes, les maisons de péché, justement, non pas qu'il les ait organisées, mais qu'il les ait tolérées, justement, pour empêcher que ces péchés soient répandus partout. Il a essayé de les rassembler dans un point très précis pour pouvoir un peu les surveiller et qu'elles soient pas, que ces femmes de mauvaise vie ne soient pas partout dans les villes et qu'elles soient uniquement dans certains endroits où ils puissent avoir une certaine surveillance. C'est une tolérance. Bien sûr, ça ne veut pas dire pour cela que Saint-Louis était pour ce genre de péché. Donc, les lois humaines n'ont pas pour objet de prescrire tous les actes de toutes les vertus. Elles n'ont donc pas simplement, cependant, pour mission de prescrire les actes vertueux quels qu'ils soient. Elles ne les commandent qu'en raison du bien commun. Donc la loi humaine peut, à cause du bien commun, justement obliger, par un système coercitif, d'obligation, certaines personnes à suivre certaines lois générales qui regarde le bien commun. Mais au niveau du droit particulier, du bien particulier, encore une fois, même un saint roi ne peut pas tout contrôler. C'est impossible. Alors, les lois, saint Thomas va se poser la question de savoir si ces lois humaines obligent en conscience. Bon, alors, il est évident qu'il y a déjà une réponse générale qu'on a déjà donnée. Si une loi s'oppose au bien commun, n'est pas raisonnable ou n'est pas faite par l'autorité légitime, mais est invalide, c'est évident. Mais en plus de ça, si une loi va contre la loi éternelle ou contre la loi naturelle, elle est ipso facto invalide de soi. La loi sur l'avortement, par exemple, la loi euh, sur qui légitiment les mariages des sodomites et des gens comme ça, sont des lois qui sont immorales en tant que telles parce qu'elles s'opposent à la loi divine. Donc, saint Thomas va devoir faire une distinction, évidemment, entre les lois justes et les lois injustes. Les lois justes, dit-il, tirent de la loi éternelle, dont elles dérivent, la puissance d'obliger dans le fort de la conscience. On juge de la justice d'une loi par sa fin, par son auteur et par sa substance. Donc, si la loi est juste, il y a l'obligation de la suivre, l'obligation de conscience. Donc. Alors, par sa fin, donc on juge la loi juste par sa fin, son auteur et sa substance. Quelle est la fin? La fin, c'est le bien public, j'ai déjà expliqué. L'auteur, c'est l'auteur de la loi, le chef politique qui a pouvoir sur ses lois, afin qu'il n'excède pas ses pouvoirs. Enfin, par sa substance, qui répartit avec une équitable proportion les charges d'un État dans l'intérêt du bien public. Encore une fois, le bien public est primordial pour qu'une loi soit légitime. Les lois injustes, elles, évidemment, n'obligent pas en conscience. Les unes sont contraires au bien commun, les autres peuvent être même contraires au bien divin. Les lois contraires au bien humain sont mauvaises de trois manières, soit par leur fin, soit par leur auteur, soit par leur substance. Oui, saint Thomas est très logique dans tout ce qu'il explique. Les lois contraires aux lois humaines, contraires au bien humain, sont mauvaises par leur fin lorsque le chef d'un État, par exemple, impose à ses sujets des lois onéreuses qui ont pour but sa cupidité ou sa propre gloire, plutôt que le bien général. Par exemple, l'augmentation des impôts telle qu'elle est faite en France actuellement, ou l'augmentation du nombre invraisemblable des radars, par exemple, sur les routes, qui n'a pour but que de remplir les caisses de l'État, sont des lois qui sont faites dans un esprit de concupiscence de la part dans le cœur de ceux qui font ces lois, justement pour essayer de profiter au maximum, de traiter, si vous voulez, tous les conducteurs, par exemple les radars, tous les conducteurs, comme des vaches à lait qu'on fait payer à longueur de journée. C'est évident, quand mes fidèles me disaient: Monsieur l'abbé, moi je commence à travailler pour moi au 1er octobre de chaque année. Du 1er janvier au 1er octobre, je travaille pour l'État, et à partir du 1er octobre, je travaille pour moi et ma famille. Il est évident, dans des cas comme ça, comment voulez-vous qu'une société puisse tenir debout? Donc, lorsque le chef de l'État, qui a autorité sur ses lois, impose les lois uniquement pour sa propre cupidité ou sa propre loi, eh bien, elles vont contre la fin de la loi. Deuxièmement, lorsque l'auteur de la loi outrepasse ses pouvoirs, eh bien, c'est pareil, dans ce cas-là, l'État, la loi va contre le bien commun. Et enfin, les lois contraires au bien commun peuvent être mauvaises aussi par leur substance quand les charges ne sont pas réparties avec équité. Saint Augustin dit: il n'y a pas de loi là où il n'y a pas de justice. Qui dit loi juste dit justement obligation. Qui dit loi injuste dit manque d'obligation. On ne peut pas être obligé à suivre une loi qui est par elle-même injuste. De telles lois, dit saint Thomas, n'obligent pas dans le fort de la conscience, si ce n'est peut-être pour éviter les scandales et le désordre. Dans certains cas, il vaut mieux suivre certaines lois qui peuvent être mauvaises en tant que telles, pour éviter un scandale plus grand, pour éviter un désordre encore plus grand. Alors, saint Thomas va évidemment aussi parler des lois contraires au bien divin, qui contredisent la loi divine, la loi de Dieu. Donc il est évident que dans ce cas-là, on ne peut pas suivre ces lois, comme les décrets des tyrans, par exemple, qui prescrivent l'idolâtrie ou toute autre transgression des préceptes divins. Il n'est jamais permis de les observer. Il vaut mieux, disaient les apôtres, obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Donc, vous voyez, saint Thomas explique bien qu'il faut considérer toutes les circonstances, la fin, l'auteur, la substance de la loi. Donc, quand saint Paul, une objection qu'on entend souvent, c'est que tout pouvoir vient de Dieu. C'est vrai. Saint Paul disait: tout pouvoir vient de Dieu, d'où il tirait cette conséquence: celui qui résiste au pouvoir résiste à l'ordre de Dieu. Doit-on conclure de cette phrase de saint Paul qu'il faut toujours obéir aux lois politiques, aux lois des politiciens? Il est évident que dans ce cas-là, saint Paul, c'est au Romains chapitre 13, verset 2, parlait du pouvoir exercé dans les limites de sa juridiction. Celui-là oblige en conscience. Donc, c'est un pouvoir exercé dans les limites de la juridiction, avec en but le bien commun, un pouvoir raisonnable, une loi raisonnable, évidemment, oblige en conscience. Mais il n'en est pas ainsi lorsque le législateur contredit les commandements de Dieu ou dépasse les bornes de sa puissance. On n'est pas tenu d'observer les lois oppressives qui imposent des lois injustes au sujet et les permet de s'en affranchir si on le peut sans produire de scandale ou des maux plus grands. Vous voyez la grande sagesse de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin est un homme qui a la sagesse divine. Donc il fait les distinctions qui s'imposent parce qu'elles sont nécessaires. Alors, il est évident, dit saint Thomas, donc je résume en quelque sorte ici toutes les autres parties de son traité sur les lois qui ne sont pas sur le polycopié. Il est évident que ceux qui sont les sujets d'un État doivent obéir aux lois qu'il établit, encore une fois, dans la mesure où ces lois sont légitimes. Il n'y a que les deux cas suivants où on n'est pas soumis à une puissance. Premièrement, lorsqu'on n'est pas sous la juridiction de la loi, de la personne qui a fait la loi. En second lieu, lorsqu'on est sous la dépendance d'une puissance supérieure qui dispense de la soumission à une autorité inférieure. C'est évident, donc si une loi politique faite par les politiciens va contre la loi naturelle, il y a une loi au-dessus qui est plus puissante, à savoir la loi naturelle, et encore au-dessus la loi divine. Si le politique dit il est légal, légitime de tuer un enfant dans le sein de sa mère, comme Dieu a dit tu ne tueras pas, donc on ne peut pas en conscience suivre une loi inférieure, alors que la loi supérieure dit le contraire. Alors, saint Thomas fait des distinctions intéressantes. Il dit qu'il y a toujours deux manières d'être soumis aux lois. Les méchants, dit-il, sont assujettis comme à une force qui les domine. Leur soumission est l'effet de la contrainte. Les bons leur obéissent comme à une règle qui les dirige. Encore une fois, si la loi est bonne. Les bons, donc, ne sont pas assujettis à ces lois par la contrainte, mais comme les méchants, mais par amour. Hein, par amour pour l'autorité qui vient de Dieu. Alors, dans certains cas, il est évident que les choses ne dépendant pas des mots, le législateur porte sa loi pour des circonstances ordinaires. Dans certains cas, les circonstances peuvent changer. Comme il n'appartient pas à chaque citoyen de déterminer ce qui est utile ou nuisible au bien des publics, on doit, quand le péril n'est pas soudain, recourir au chef qui a le pouvoir de dispenser. La nécessité apporte la dispense avec elle. Bon, donc il est évident qu'il faut, dans ce cas-là, suivre la loi tant que la loi est raisonnable. Il peut y avoir certains cas où le bon sens demande d'outrepasser la loi parce que les circonstances, le politicien qui a fait la loi ne peut pas prévoir toutes les circonstances. Cependant, dans le doute, dit saint Thomas, on doit agir selon la lettre de la loi ou consulter un supérieur quand on le peut. Le législateur, si grande que soit sa sagesse, ne saurait saisir toutes les conjectures particulières, tous les cas particuliers. Lui fut-il donné de les prévoir, il devrait encore, pour éviter la confusion, les passer sous silence, établir sa loi d'après ce qui arrive ordinairement. On ne peut pas tout prévoir. Alors, saint Thomas, donc, c'est la question 97 que je vais résumer rapidement, puisque là vous êtes en bas de la page 69, encore une fois, sur le polycopié. Saint Thomas d'Aquin, il a parlé du changement des lois humaines. On ne parle pas des changements de la loi naturelle, la loi divine, qui ne peuvent pas changer. Mais il est naturel à la raison humaine de passer progressivement de l'imparfait au parfait. Donc, les lois humaines peuvent subir des changements. Parce que l'état des sociétés varie et à des situations différentes, il faut des lois diverses. Là, vous avez cette belle citation de saint Thomas que je crois vous avoir déjà donnée, mais je vous redonne parce qu'elle est magnifique. Un peuple, par exemple, est calme, sérieux, dévoué au bien public, confiez-lui l'élection des magistrats, vous le pouvez sans danger. Mais si ce peuple vient à se dépraver, à livrer le pouvoir à des sujets indignes, à des scélérats et à des brigands, retirez-lui le droit d'élection pour le confier à des hommes de bien. C'est pour cela que saint Thomas va expliquer un autre point de la somme, que justement la monarchie, et ce qu'il y a de loin, ce qui est préférable en matière politique, parce que la monarchie n'exige en soi la sainteté, la vertu, que d'une seule personne, le roi. L'aristocratie demande la vertu à ceux qui dirigent aux meilleurs, qui sont tenus par la vertu. La démocratie demanderait la vertu pour tous les gens du peuple. Or, saint Thomas explique bien que ceci n'est pas possible à cause du péché originel. S'il n'y a pas de péché originel, il n'y a pas de problème, on pourrait suivre la démocratie. Avant le péché originel, moi je veux bien suivre la démocratie. Mais comme le péché originel est là, à cause de la corruption générale des êtres humains, eh bien, la démocratie est extrêmement dangereuse et il vaut mieux suivre une monarchie ou une aristocratie mêlée à une monarchie. C'est ce qui est passé d'ailleurs dans la plupart des cas. En France, par exemple, même au Moyen-Âge, le roi avait une autorité, mais passait aussi par des autorités déléguées sous lui. C'était l'aristocratie de la noblesse. Alors, le changement d'une loi humaine, en tant que telle, en lui-même, est contraire au bien public, sauf s'il y a une raison proportionnée. S'il n'y a pas de raison proportionnée pour le changement de la loi humaine, il ne faut pas la changer. On ne peut changer les lois sans en affaiblir la force par la même que l'on déroge à la coutume. C'est pourquoi il n'est pas bon de les modifier, dit saint Thomas, que quand des avantages certains compensent les inconvénients du changement lui-même. Donc il faut qu'il y ait une raison proportionnée pour changer une loi humaine. C'est pour ça qu'il faut garder les coutumes des anciens. On voit très bien aujourd'hui le gouvernement actuel de la France, comment il cherche par tous les moyens à casser les coutumes, se moquer des traditions reçues jadis de nos pères, justement pour déstabiliser les gens, surtout détruire les familles. Une famille ne peut pas s'équilibrer sans avoir des fondations. La fondation de la famille, justement, c'est une, sur le plan humain, c'est une société stable. Pour s'éloigner du droit qui a paru longtemps équitable, il faut une nécessité pressante, ou du moins une très grande utilité. La compensation existe parce que la nouvelle loi est évidemment très utile, à plus forte raison si elle est réclamée par une impérieuse nécessité. Alors, peut-on dispenser des lois humaines ? Non. Peut-on dispenser de la loi éternelle ? Non. Peut-on dispenser des lois naturelles ? Non en tant que telle. Dieu seul pourrait donner cette dispense. On a déjà cité l'objection de Dieu qui demande à Abraham d'immoler son fils Isaac. On a déjà répondu à cette objection. Dispenser, c'est à proprement parler faire à chacun la mesure d'un bien commun. Il est évident que l'autorité politique ne peut pas, toutefois, user de ce droit sans motif. Il faut qu'il y ait un motif proportionné pour qu'on dispense d'une loi. Une dispense accordée sans motif proportionné, soit parce que la personne a caché un détail important, soit parce qu'elle a menti, eh bien, dans de nombreux cas, ces dispenses vont devenir évidemment invalides. La loi naturelle n'admet pas de dispense pour ses préceptes généraux, mais on peut quelquefois dispenser des préceptes secondaires, qui sont comme les conclusions des premiers principes. On peut par exemple, c'est un cas particulier, refuser de rendre un dépôt à celui qui doit s'en servir pour trahir la patrie. Vous avez prêté une arme, quelqu'un vous a prêté une arme de poing par exemple, et puis cette personne vient vous voir pour récupérer son bien et vous rendez compte qu'il est complètement ivre et qu'il veut récupérer son bien, qu'il va manifestement faire des bêtises énormes avec cette arme de poing qui lui appartient effectivement. Eh bien, vous avez pas le droit de lui dire « Ah, ben, la loi me demande dans ce cas-là de lui rendre l'arme qui lui appartient légalement, donc je lui rends. » Non, le bon sens élémentaire fait comprendre que vu l'état d'ébriété de cet homme, je n'ai pas à lui rendre son bien, ce qui va contre la loi humaine, mais qui c'est là où le bon sens évidemment doit également intervenir. Alors saint Thomas, donc nous sommes maintenant en bas de la page 69, pardon, sur le polycopier. Donc saint Thomas va jusqu'à dire que la coutume des peuples et les institutions des anciens doivent être tenues pour des lois. C'est en bas le dernier paragraphe de la page 69, ce polycopier. De même que les prévaricateurs des lois divines, les contempteurs des coutumes ecclésiastiques doivent être réprimés. De ce fait, la coutume à force de loi abolit la loi et interprète la loi. Aucune coutume, cependant, ne peut prévaloir contre la loi divine ou la loi naturelle. La loi naturelle est au-dessus de la coutume, la loi divine, évidemment, est également au-dessus de la coutume. La loi ancienne était bonne mais imparfaite. Cependant, Dieu permet parfois le péché pour l'humiliation du pécheur. De même, page 70 sur le polycopie, en haut de la page. De même aussi, Dieu a voulu donner aux hommes une loi qu'ils ne puissent observer par leur propre force. Par là, dans leur présomption, ils se reconnaîtraient pécheurs et dans leur humiliation, ils recourraient à l'aide de sa grâce. Est-il possible pour un homme, naturellement, sans l'aide de la grâce, on verra ça dans le traité de la grâce, de suivre la loi du bon Dieu complètement, sans une aide divine? La réponse est non. Pourquoi? Parce que justement une telle nécessité va maintenir l'homme dans un état d'humilité. Et donc permettre de lutter contre l'orgueil. N'oublions pas que le péché d'Adam et Ève, c'est d'abord un péché d'orgueil qui a entraîné un péché de désobéissance. Donc ce péché d'orgueil, ce péché de désobéissance vont être, ces deux péchés vont être, si vous voulez, maintenus sous contrôle justement par la vertu d'humilité. Et donc Dieu permet donc, il a même voulu que nous ne puissions pas, par nos propres forces, suivre sa loi. Alors, il nous donne évidemment les lumières dont nous avons besoin et les grâces dont nous avons besoin. Car tous ceux que Dieu instruit, c'est par miséricorde qu'il les instruit. Ceux qu'il n'instruit pas, c'est par une juste sentence. Donc Dieu, si vous voulez, ne pouvant pécher, puisqu'il est Dieu, il est parfait, est obligé de nous donner les grâces dont nous avons besoin, mais il respecte en même temps notre libre arbitre, et malheureusement, si je refuse les grâces du bon Dieu, eh bien, je ne vais pas pouvoir suivre la loi du bon Dieu, ce sera ma faute, parce que je n'ai pas voulu utiliser les grâces que le bon Dieu me donnait gratuitement. C'est en effet une suite de la condamnation du genre humain pour la faute de notre premier père. Donc c'est à cause du péché originel que nous avons cette révolte, si vous voulez, innée en nous contre l'autorité qui vient de Dieu. Alors, tout ce résumé de la somme, c'est le texte directement de la somme, là, mais j'ai pris certains passages uniquement, page 70, encore une fois, troisième paragraphe sur le polycopié. On sait que la loi ancienne donc, a été accordée au peuple juif pour lui conférer une prééminence de sainteté par respect pour le Christ qui devait naître de ce peuple. Immédiatement après le péché du premier homme, le moment n'était pas favorable à la réception de la loi ancienne. C'est pour ça que Dieu n'a pas donné la loi ancienne, la loi de Moïse, donc tout de suite après la prévarication d'Adam et Ève. Il a attendu. D'une part, l'homme n'avait pas encore reconnu la nécessité. D'une part, il n'est pas encore reconnu la nécessité parce qu'il se confie en sa raison. D'autre part, l'habitude du péché n'avait pas encore étouffé la voie de la loi naturelle. Donc, Dieu a attendu avec sagesse avant de donner la loi de Moïse. Tandis que la loi humaine a principalement en vue l'établissement d'une amitié entre les hommes, la loi divine, elle, vise à fonder principalement une amitié entre l'homme et Dieu. Comme la grâce présuppose la nature, la loi divine présuppose nécessairement la loi naturelle. Donc Dieu, si vous voulez, parle par la loi divine, qui passe au niveau inférieur comme loi naturelle, qui est une participation de la loi éternelle, et encore en dessous, la loi humaine. Donc on devrait avoir sur les trois niveaux, le niveau en bas, la loi humaine qui participe à la loi naturelle qui participe à la loi éternelle. Ainsi, la loi humaine devrait participer à la loi éternelle. Bon. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, justement à cause de la contamination due au péché originel. Alors, je reprends un petit peu certains textes de saint Thomas d'Aquin, donc on retrouve d'autres explications sur ce sujet dans la question 98 de la Prima Secunda, toujours dans le traité des lois. Les œuvres de Dieu sont parfaites, dit saint Thomas, et la loi ancienne était imparfaite. Les œuvres de Dieu durent éternellement, tandis que la loi ancienne a été abrogée parce que justement elle est imparfaite. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et cette loi ne suffisait pas au salut. Donc la loi de l'Ancien Testament a été abolie par Dieu au moment de sa mort, lorsque le rideau du temple s'est miraculeusement déchiré en Dieu. C'était là le symbole de la fin de la loi ancienne et début de la nouvelle alliance. La loi ancienne, sans être parfaite en elle-même, était du moins parfaite relativement au temps et circonstances. Les lois imposées à un enfant ont la perfection que réclame son âge, bien qu'elle n'ait point celle que demande l'âge mûr. Donc, Dieu avait donné déjà aux gens de l'Ancien Testament tous les moyens de sauver leurs âmes. Il ne pourrait pas créer une âme pour le ciel sans donner à cette âme les moyens d'y aller. Donc, déjà dans l'Ancien Testament, on avait, par la circoncision, par toutes les bénédictions, par toutes les purifications légales, il y avait un petit peu des moyens, si vous voulez, avec la foi en un Christ à venir, en un Messie à venir dans le futur, il y avait un moyen déjà d'effacer ses péchés. La loi ancienne a cependant été abrogée par le règne de la grâce. Donc la loi de crainte a été remplacée par la loi de grâce, qui est la loi d'amour. Dieu avait donné donc aux Anciens Testaments, dans l'Ancien Testament, les moyens, si vous voulez, de sauver les hommes, mais cette loi était imparfaite, insuffisante en tant que telle pour sauver les hommes. Mais Dieu avait donné un autre moyen d'arriver au salut éternel. Ce moyen, c'était la foi dans un médiateur à venir, un médiateur futur. La foi justifiait les patriarches comme elle nous justifie nous-mêmes, et Dieu n'a jamais laissé l'homme dans l'impuissance de parvenir au salut. Sinon, Dieu serait, si vous voulez, un tyran, ce qui n'est pas le cas du tout. Dieu est donc obligé de nous donner les moyens de sauver notre âme. Si nous sauvons, on verra tout ça dans le traité de la grâce, mais si nous sauvons notre âme, ce n'est pas la miséricorde de Dieu. Si nous perdons notre âme, c'est notre faute. Donc la loi ancienne, toute imparfaite qu'elle était, disposait néanmoins les hommes à la loi parfaite qui devait nous apporter notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans l'Ancien Testament, Dieu parlait par l'intermédiaire des anges. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu nous a parlé par son Fils. Donc le Fils de Dieu n'apparaît pas dans l'Ancien Testament, pas encore. Il existe bien sûr en tant que deuxième personne de la Sainte Trinité, mais les gens de l'Ancien Testament ne vont jamais voir directement Dieu. Ils vont voir les œuvres de Dieu. Même le grand Moïse, le plus grand des patriarches sans doute, quand il est dans le désert et qu'il voit le buisson qui brûle sans se consumer, donc il entend la voix de Dieu, mais il ne voit pas Dieu. Et dans le Nouveau Testament, évidemment, on passe de la loi de crainte à la loi de charité, à la loi d'amour, à la loi de grâce, et donc là, ils vont voir, les gens du temps de notre Seigneur vont voir physiquement notre Seigneur Jésus-Christ dans son humanité. N'oublions pas que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ est à la fois une personne humaine, une personne divine. Il n'y a pas deux personnes dans notre Seigneur Jésus-Christ, une personne humaine, une personne divine, c'est l'hérésie de dire ça. Il n'y a qu'une seule personne avec deux natures. Il est parfaitement Dieu, nature divine, parfaitement homme, nature humaine. Alors évidemment, on aurait tendance, ça point très important, à juger un peu le bon Dieu. Pourquoi le bon Dieu ne me donne-t-il pas plus de grâce? Pourquoi le bon Dieu, on entend ça tout souvent dans les milieux de la tradition, pourquoi le bon Dieu ne nous renvoie pas un Saint Pie X aujourd'hui? Pourquoi le bon Dieu ne nous envoie pas une autorité légitime dans l'Église qui puisse remettre l'Église sur les rails, les hommes d'Église sur les rails? Et à la place d'un Saint Pie X, on a un Bergoglio qui fait du n'importe quoi, qui détruit tout dans l'église de Vatican II. Eh bien, il y a une belle citation de Saint Augustin qui est reprise par Saint Thomas. Dieu attire-t-il celui-ci et n'attire-t-il pas celui-là? Ne décidez pas cette question si vous voulez éviter l'erreur. C'est là qu'il faut savoir se guider. Dieu donne à certaines personnes certaines grâces qu'il ne donne pas à d'autres. Le bon Dieu a donné à la très sainte Vierge Marie des grâces qu'il n'a pas données à d'autres personnes, c'est absolument évident. Alors, est-ce que tous les Juifs étaient, dans l'Ancien Testament, obligés d'observer la loi ancienne? Donc, je résume un petit peu la question 98 du traité sur les lois. Il y avait donc dans la loi ancienne deux genres de préceptes, ceux de la loi naturelle et certains préceptes particuliers. Alors, les premiers, donc les préceptes de la loi naturelle, obligeaient tous les hommes, non pas qu'ils étaient dans la loi, mais comme appartenant au droit naturel. L'homme étant une nature voulue par Dieu, composition d'un corps et d'une âme est tenue au droit naturel. Les autres, à savoir les préceptes particuliers, n'obligeaient, ne liaient que les juifs. Donc tous les hommes étaient obligés par la loi naturelle, seuls les juifs étaient obligés dans l'Ancien Testament par les préceptes particuliers de la loi ancienne. Alors, on pourrait se demander, mais pourquoi donc, cette différence entre les gens donc. Une loi, dit saint Thomas, s'impose à deux sortes d'hommes, aux superbes, pour réprimer leur orgueil, et aux bons, pour les aider dans le bien qu'ils désirent. Vous voyez, tout le monde y trouve son compte. Les gens orgueilleux trouveront dans la loi un garde-fou qui les oblige à aller vers le bon Dieu. Au contraire, pour les bons, ils vont trouver dans la loi une aide pour augmenter encore leur bonne volonté de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une phrase importante. Une loi s'impose à deux sortes d'hommes, aux superbes pour réprimer leur orgueil, aux bons pour les aider dans le bien qu'ils désirent. Donc la loi ancienne, si vous voulez, a été convenablement donnée entre la loi de nature et la loi de grâce. Donc la lumière de la loi naturelle n'était pas encore obscurcie par l'habitude du péché. Et puis évidemment, avec l'augmentation des péchés des hommes, donc Dieu a envoyé finalement son Fils unique, il y a 2000 ans, donc pour s'incarner, prendre la nature humaine et pouvoir par sa mort réconcilier l'homme avec Dieu. Alors, rapidement, donc saint Thomas, on va voir un petit peu tout ça, surtout en fin de page 70, en page 71, saint Thomas va donner plusieurs exemples justement des préceptes cérémoniels. La loi ancienne réaffirmait-elle des préceptes cérémoniels? Donc les 10 commandements sont des préceptes moraux, mais, dit saint Thomas, nous devons adorer Dieu non seulement par des actes intérieurs de la foi, de l'espérance et de la charité, mais encore par des actes extérieurs propres à manifester notre dépendance vis-à-vis du Créateur, ce qu'on appelle les préceptes cérémoniels. C'est pareil pour nous. Nous ne devons pas simplement suivre notre Seigneur Jésus-Christ si vous voulez, suivre notre Seigneur Jésus-Christ dans notre âme, il faut aussi suivre notre Seigneur Jésus-Christ aussi avec notre corps. Donc, il faut justement, par notre façon de vivre extérieurement, manifester notre foi intérieure. Donc, les actes extérieurs, comme l'assistance à la Sainte Messe, par exemple, le dimanche, manifestent notre dépendance vis-à-vis du Créateur. Donc, les anciens, évidemment, avant notre Seigneur Jésus-Christ, les Juifs n'avaient que les cérémonies de l'ancienne loi qui représentaient les choses divines sous des emblèmes sensibles. Par exemple, la Pâque juive rappelait que les Juifs avaient quitté l'esclavage qu'ils supportaient chez les Égyptiens et qu'ils avaient traversé la mer Rouge à pied sec. Mais cette traversée de la mer Rouge, si vous voulez, représentait une autre traversée bien plus importante que la traversée du baptême. Donc le sang qui protège aussi sur le linteau des portes les maisons de l'ange exterminateur dans l'Ancien Testament, eh bien, représente évidemment le sang de la Sainte Messe qui va protéger les âmes de l'influence du démon. Donc il y avait évidemment dans la loi ancienne, il y avait trois sortes de préceptes. Il y avait des préceptes qui étaient des préceptes moraux, des préceptes aussi qui étaient des préceptes cérémoniels et des préceptes qu'on appelle des préceptes judiciaires. Donc, les préceptes moraux appartenaient à la loi naturelle, les préceptes cérémoniels réglaient la forme du culte et les préceptes judiciaires regardaient les relations civiles, donc pouvoir coercitif. Alors, évidemment, ces préceptes manifestaient la justice divine. Mais la charité de la nouvelle loi, justement, va passer surtout dans les recommandations. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, on ne pourrait plus se sanctifier avec les préceptes cérémoniels de l'Ancien Testament. Ce serait absolument impossible. Donc, ces préceptes, si vous voulez, moraux, judiciaires et cérémoniaux de l'Ancien Testament, correspondaient à une période d'attente avant l'arrivée du Messie. Donc, il est évident que notre Seigneur Jésus-Christ, par son arrivée ici-bas sur la terre, va donner une loi infiniment, infiniment plus parfaite. Pourquoi? Parce que la convoitise, il y a une raison surnaturelle à cela, la convoitise qui place la fin de l'homme dans les biens temporels est un venin qui va tuer la charité. Mais les biens temporels que l'on désire en les remportant à Dieu servent à conduire l'homme imparfait à la charité elle-même. Oui, on voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ va partir de choses temporelles auxquelles les Juifs de l'Ancien Testament étaient tellement attachés pour les monter à une fin surnaturelle. À faire comprendre que les biens surnaturels sont bien plus importants que les biens naturels. Et malheureusement, les Juifs actuels qui sont restés, qui attendent toujours notre Seigneur Jésus-Christ, donc qui nient la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu et qui est mort sur la croix le Vendredi Saint, eh bien, ils attendent toujours un sauveur à venir. Et donc, ils sont toujours attachés, si vous voulez, aux biens temporels plus qu'aux biens éternels, parce qu'ils recherchent les biens temporels et ils divinisent en quelque sorte les biens temporels. Alors, saint Thomas d'Aquin résume tout ça en disant que la loi humaine a principalement en vue l'établissement d'une amitié entre les hommes, alors que la loi divine vise à fonder principalement une amitié entre l'homme et Dieu. Donc c'est quelque chose d'infiniment plus parfait. Donc la loi divine présuppose évidemment nécessairement la loi naturelle. Alors reprenons un petit peu le texte du Polycopier qui vient de saint Thomas. Toutes les phrases du Polycopier sont entièrement de saint Thomas. C'est des parties de saint Thomas que j'explique pour essayer de remettre un peu d'ordre là-dedans. Donc la perfection de l'homme, pour l'homme, pardon, consiste à mépriser les biens temporels pour s'attacher aux biens spirituels. Plus l'homme s'attache aux biens temporels et se détache des biens spirituels, plus il se tourne vers le monde. Vers le monde d'ici-bas. Plus au contraire l'homme méprise les biens temporels pour s'attacher aux biens spirituels, plus il regarde vers le ciel et donc plus il se prépare à sauver son âme. On en est là au quatrième paragraphe de la page 70 dans le Polycopier. Les mœurs humaines donc, se définissent par rapport à la raison, principe propre des actes humains. Tout homme, que ce soit l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance d'ailleurs, tout homme a. Ah, parce qu'il est homme, a une intelligence, a une raison. De sorte qu'on appelle bonnes les mœurs qui s'accordent avec la raison et mauvaises celles qui s'y opposent. Donc la loi naturelle existe pour tout le monde, et même pour des gens qui aujourd'hui se moquent complètement du bon Dieu. La loi naturelle existe aussi pour nos ministres qui nous dirigent, pour des gens qui ne se préoccupent absolument pas de l'aspect moral des choses. Et ils auront quand même à rendre compte à Dieu le jour de leur mort, hein, comme tout le monde. Donc, on appelle bonnes les mœurs qui s'accordent avec la raison naturelle, et mauvaises les mœurs qui s'y opposent. Donc, une loi peut être bonne dans la mesure où elle s'accorde avec la raison, et mauvaise dans la mesure où elle s'oppose à la raison. Donc, cependant, en tant que tel, au chef de la société, l'homme doit fidélité, respect et service. Fidélité, respect et service. Trois mots de saint Thomas. Fidélité, ça c'est l'application, si vous voulez, naturellement, du premier commandement, à ce Dieu tu adoreras et m'aimeras imparfaitement, tu n'auras pas d'autre Dieu en ma présence. Donc, la fidélité au maître empêche essentiellement que l'hommage de souveraineté soit accordé à aucun autre. C'est la signification du premier précepte, tu n'auras pas d'autre Dieu. Deuxièmement, le respect, ça c'est le deuxième commandement, tu ne prendras pas en vain le nom du Seigneur. Le respect du maître, une application sur plan humain, naturel, le respect du maître veut qu'on s'abstienne à son égard de toute attitude offensante, et c'est l'objet du second précepte. Donc, si vous voulez, comme toute autorité vient de Dieu, et donc le catholique surtout a le devoir de voir dans l'autorité une traduction, si vous voulez, du respect qu'il doit avoir pour Dieu. Donc, une certaine fidélité, un respect et un service. La fidélité, c'est l'application du premier commandement qui est transposé de l'obéissance, de l'adoration à Dieu au respect dû aux personnes en autorité sur nous. Le respect du maître, c'est le deuxième commandement. Tu ne prendras pas en vain le nom du Seigneur. Et troisièmement, le maître a droit au service en contrepartie des bienfaits qu'il dispose à ses sujets. Troisième précepte de la loi de Dieu, il pourvoit par la sanctification du sabbat en mémoire de la création. Donc la sanctification du dimanche rappelle que, justement, en matière naturelle, par rapport à l'autorité au-dessus de nous, on a un devoir de fidélité, de respect, de service. Bon, il est évident hein, c'est évident, mais oui, préciser les choses, pas les temps qui courent, mettre les barres sur les T et les points sur les I, que l'autorité va être respectée dans la mesure où elle agit pour la fin pour laquelle elle a été créée. L'autorité n'a pas été donnée aux politiciens pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent et qu'ils s'opposent à la loi naturelle. Malheureusement, c'est ce qu'ils font. On dirait que les autorités politiques, surtout en France, font tout pour détruire la loi naturelle dans le cœur des enfants. C'est évident, dans un cas comme ça, on ne peut pas leur obéir. Mais il faut garder quand même l'aspect de fidélité, de respect, de service. Vous voyez, il y a quand même une certaine autorité. Par exemple, je sais pas moi, vous dépassez sur une ligne jaune et vous faites arrêter par la maréchaussée pour cette infraction. Bon, le policier qui vous arrête a une certaine autorité sur lui, de façon limitée, de façon définie, mais qui est une autorité réelle. Et là il y a un certain respect qu'on doit avoir au principe d'autorité. Parmi les préceptes, donc, deux paragraphes avant la fin de la page 70. Donc, parmi les préceptes, qui règlent nos rapports avec Dieu, nous trouvons en premier lieu que l'homme lui soit fidèlement soumis, sans aucune collision avec ses ennemis. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ou on adore le premier, on haït le deuxième, ou on hait le premier et on adore le deuxième. Donc, on retrouve les mêmes choses dans cette explication de saint Thomas. Donc, l'homme doit témoigner de la révérence à Dieu afin qu'il s'applique à le servir. C'est pas simplement de reconnaître l'existence de Dieu, mais nous avons le devoir de révérer cette piété à l'égard du bon Dieu pour le servir correctement. Sans contexte, il est plus contraire à la raison, c'est un péché plus grave de manquer à ce que l'on doit à l'égard des personnes envers qui on n'est plus obligé. Donc un péché, par exemple, à l'égard de nos parents, est plus grave qu'un le même péché commis à l'égard d'une personne devant laquelle on n'a pas d'obligation de la même façon. Donc il y a deux êtres, c'est une phrase très importante de saint Thomas, deux êtres, Dieu et le Père, dont les bienfaits sont tels que nul n'est jamais quitte à leur endroit. Je répète cette phrase qui est fondamentale. Deux êtres, Dieu et le Père, dont les bienfaits sont tels que nul n'est jamais quitte à leur endroit. Donc, Dieu ne peut donc dispenser l'homme ni d'être en règle avec lui, ni de se soumettre à l'ordre de sa justice, même dans les matières qui concernent le commerce des hommes entre eux. Donc, Dieu, si vous voulez, a une autorité supérieure à les deux principes d'autorité, si vous voulez, qui se manifestent à nous. Bien sûr, il y a Dieu. Et l'autorité de Dieu va se manifester d'abord par l'autorité de notre Père. Père qui représente l'autorité divine. C'est pour ça que les crimes contre Dieu et contre l'autorité paternelle sont les crimes les plus graves qui se peuvent commettre, parce que l'autorité du Père représente l'autorité du bon Dieu. Évidemment, aujourd'hui, on voit très bien comment les gouvernements cherchent par tous les moyens à détruire le respect, la fidélité, le respect et le service qu'on doit à Dieu, et la fidélité, le respect et le service qu'on doit au Père. C'est pour cela que le gouvernement en France, c'est clair, cherche à avoir une influence délétère sur les tout petits, prendre les petits à l'école le plus vite possible. Maintenant, ils parlent de mettre les enfants à l'école à 2 ou 3 ans. Pourquoi ? Pour pouvoir détruire complètement l'influence de la famille. Et qui détruit l'influence de la famille ? Détruit l'autorité du père et détruit l'autorité de la mère. Donc on détruit la famille, on détruit même l'idée même d'avoir un père de famille. C'est comme ça que toutes les politiques en faveur des sodomites ont en fait pour but de détruire complètement l'esprit de famille et l'existence même d'une famille composée d'un père, d'une mère et des enfants. Et on le voit très bien que le gouvernement fait tout justement pour détruire ces deux principes d'autorité, Dieu au niveau surnaturel et l'homme dans sa paternité qui a autorité sur sa famille justement parce qu'il représente l'autorité du bon Dieu. Donc, encore faudrait-il que nous obéissions à cette loi du bon Dieu avec amour et pas à contre-cœur. Il tombe sous le précepte de la loi, dit saint Thomas d'Aquin, de ne pas accomplir à contre-cœur une œuvre vertueuse, parce que agir à contre-cœur, ce n'est pas agir volontairement. Alors, rappelons encore d'autres petites choses qui sont dans la somme, qui ne sont pas dans le polycopier. Donc, tous les préceptes moraux, si vous voulez, de l'Ancien Testament d'ailleurs, et du Nouveau Testament, reviennent indubitablement, évidemment, aux 10 commandements de Dieu. On a le texte de saint Thomas d'Aquin, on a la question 100. Voilà ce que dit saint Thomas. Je vous lis rapidement un résumé de l'article 4 de la question 100 de la prima secundae. Les préceptes du décalogue, donc les lois des 10 commandements, ont été distingués différemment par divers auteurs. Origène partage le premier en deux, de sorte que le troisième serait « Tu ne prendras point en vain le nom du Seigneur » et le quatrième « Souviens-toi de sanctifier le sabbat ». Saint Augustin, avec plus de raison, réunit en un seul précepte ces deux paroles « Vous n'aurez point de dieux étrangers, vous ne ferez point d'images taillées ». Dieu en disant « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras point de dieux étrangers, tu ne feras point d'images taillées pour les adorer » exprime évidemment la même idée. Même s'il n'a pas défendu généralement de faire des statues, en tant que tel, on peut avoir une statue de la Sainte Vierge Marie, une statue qui représente un saint, mais seulement de tailler des idoles pour les adorer comme des dieux. Il ordonna lui-même de mettre d'ailleurs dans les tabernacles la représentation de deux chérubins. C'est ainsi à bon droit que saint Augustin a distingué deux sortes de convoitises, l'une qui a pour objet la femme d'autrui, qui revient à la concupiscence de la chair, l'autre qui appartient à la concupiscence des yeux, et qui renferme les divers désirs de la cupidité, et sur ce fondement, il faut admettre 3 préceptes à l'égard de Dieu et 7 à l'égard du prochain. Cette division est la meilleure. Vous voyez qu'on retrouve, pour la loi éternelle, la manifestation de cette loi éternelle, cette participation dans la loi du décalogue, justement, par les 2 tables de la loi. La première table qui contient les 3 premiers commandements, et la 2e table qui contient les commandements, non pas directement ayant Dieu pour objet direct, mais pour nous aider à nous comporter avec le prochain. Donc, Dieu directement pour objet, sont les commandements 1, 2 et 3, première table de la loi. Le prochain, pour nous aider à agir correctement avec le prochain, sont les commandements 4 à 10. Nous verrons tout ça plus tard dans d'autres parties de la somme. Alors, je vous redonne le texte de saint Thomas ici, que j'ai déjà cité en partie, mais je le recite parce qu'il est important. Donc la loi divine va donc régler par les lois les rapports des hommes dans une société qui a Dieu pour chef. Elle renferme donc conséquemment des préceptes pour déterminer nos obligations envers Dieu et envers nos semblables. Or, on doit au chef de toute société dont on est membre 3 choses, ce que j'ai déjà expliqué, la fidélité, le respect, le service. La fidélité pour ne pas déférer à un autre l'honneur du commandement, de là le premier précepte, vous n'aurez pas de Dieu étranger. Le respect qui ordonne de ne rien faire d'outrageant pour son souverain, c'est le second précepte, vous ne prendrez point en vain le nom du Seigneur votre Dieu. Et enfin le service, au retour des bienfaits reçus, et tel est l'objet propre du 3e précepte qui ordonne la sanctification du sabbat en mémoire de la création. Donc saint Thomas dit que bien que on doit au chef de la société, à Dieu bien sûr, mais aussi au chef humain de la société, fidélité, respect, service. C'est-à-dire à mesure où ces chefs politiques n'agissent pas comme des truands. Il importe donc d'être soumis à Dieu, pas simplement dans les lois de la première table de la loi, mais également dans les lois de la 2e table de la loi. Saint Thomas donc réexplique un petit peu tout ça très bien donc dans cette question numéro 100, donc que je vous résume rapidement ici. Dieu fait tout avec nombre, avec poids et avec mesure. Et il va tout faire également dans le principe d'autorité. C'est pour cela que Dieu nous donne, si vous voulez, 2 autorités. Une autorité sur le plan naturel, il y a Dieu comme Père céleste et un Père d'ici-bas. Pour cela qu'il dit bien que 2 êtres, Dieu et le Père, sont les êtres dont les bienfaits sont tels que nul n'est jamais quitte à leur endroit. 2 bienfaiteurs, Dieu et l'auteur de nos jours, auxquels nous devons le respect, la reconnaissance, la fidélité, le respect, le service, d'abord à Dieu, puis ensuite au Père, Père de famille. De là vient que les deux préceptes, pardon, que deux préceptes seulement sont affirmatifs, celui qui commande le respect envers les parents et celui qui ordonne la sanctification du sabbat en mémoire de la création. Alors, il est évident que ces préceptes du décalogue, manifestant la loi éternelle, ne peuvent pas, on ne peut pas dispenser aucune autorité politique ou même religieuse à une autorité pour dispenser des préceptes du décalogue qui sont collés à la loi naturelle. La loi naturelle, plus exactement, est collée à ces préceptes du décalogue. Alors, c'est évident que nous avons, nous, beaucoup plus que les gens de l'Ancien Testament, parce que nous avons, cette fois-ci, notre Seigneur Jésus-Christ avec nous, ayant notre Seigneur Jésus-Christ avec nous par l'Église de la loi nouvelle, vous voyez, c'est beaucoup plus facile pour nous. Il est évident que c'était plus difficile, certainement, pour les gens de l'Ancien Testament qui n'avaient pas les sacrements comme nous. Ils avaient des moyens d'effacer leurs péchés, mais tout de même pas aussi efficaces que le sacrement de pénitence, par exemple. Donc, les préceptes moraux de l'ancienne loi, justifiés, c'est vrai, mais par la foi en un Messie qui n'était pas encore là, la foi au Messie futur. Donc, ils disposaient à la grâce justifiante du Seigneur qu'il figurait, car toute la vie du peuple juif prophétisait et figurait Jésus-Christ, mais au fond, ils ne possédaient point la vertu de produire la justice, parce qu'ils étaient insuffisants, imparfaits. Vous voyez que bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ce traité des lois. Il est évident qu'il faut synthétiser et nous rappeler que tout est résumé, si vous voulez, dans la charité. C'est la charité qui résume absolument tout. Donc je vais finir là, en bas de la page 70. La teneur du précepte de la charité est d'aimer Dieu de tout son cœur. C'est le dernier paragraphe en bas de la page 70 dans le polycopier. La teneur du précepte de la charité est d'aimer Dieu de tout son cœur, ce qui implique qu'on rapporte tout à Dieu. Tout doit être rapporté à Dieu, autrement il n'y a pas moyen d'observer le précepte de la charité. C'est un petit peu la devise de Saint Pélis, omnia instaurare in Christo. Tout restauré, tout instauré, tout récapitulé dans le Christ. Récapitulé, ça veut dire quoi? Ça veut dire, caput en latin, c'est la tête. Tout récapitulé dans le Christ. Monseigneur Lefebvre traduisait la formule de la formule de Saint Pélis, omnia instaurare in Christo, tout récapitulé dans le Christ. Il nous expliquait, récapitulé, ça veut dire considérer le Christ comme la tête de tout. Récapituler, c'est mettre, caput c'est la tête, redonner à Dieu le pouvoir justement sur toute la nation, sur tout le monde entier. Donc ce culte est obligatoire, culte qu'on appelle le culte de religion, qui permet d'appliquer le principe de la charité. Il revêt donc une double forme, un culte intérieur et un culte extérieur. Donc, culte intérieur par l'âme, culte extérieur peut-être par le corps. La position du corps manifeste l'attitude d'adoration de l'âme. C'est pour ça qu'une génuflexion est importante, un signe de croix bien fait, c'est important, ce sont des actes extérieurs, mais qui manifestent quelque chose d'intérieur. L'âme, dit saint Thomas, étant composé d'une âme et d'un corps, il convient que l'un et l'autre s'appliquent au culte divin, l'âme au culte intérieur, le corps au culte extérieur. De même qu'on ne peut pas séparer l'âme et le corps. Dans la nature humaine, il y a une âme et un corps, l'âme étant la forme du corps. De la même façon, sur le plan surnaturel, il faut rendre à Dieu un culte avec notre âme et un culte avec notre corps. Avec notre âme, c'est le culte intérieur, et avec notre corps, c'est le culte extérieur. Avec notre âme, c'est la prière mentale, avec notre corps, c'est plus la prière vocale. Comme le corps est soumis à Dieu par l'âme, de même le culte extérieur est soumis au culte intérieur qui consiste pour l'âme à s'unir à Dieu par l'intelligence et le cœur. Et par le cœur, cette union à Dieu par l'intelligence et par le cœur, c'est ce qu'on appelle la vertu de charité. La condition de notre vie présente ne nous permet pas de contempler en elle-même la vérité divine, il faut attendre d'être au ciel pour ça, et sa lumière ne peut rayonner à nos yeux que sous certaines figures sensibles. Nous ne sommes pas encore capables de voir Dieu. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Disaient les anciens, c'est toujours vrai, aussi vrai aujourd'hui. Donc il faut faire attention justement à ces choses-là pour bien comprendre l'importance d'avoir un corps soumis à l'âme. Quand le corps part d'un côté, l'âme d'un autre, évidemment, c'est la révolution. Il n'y a plus d'organisation surnaturelle dans notre nature. Il ne faut jamais oublier justement que l'intégrité, le don d'intégrité qui avait été donné à Adam et Ève, c'est un don justement qui remettait de l'ordre dans les choses. La révolution introduit le désordre et le péché originel, c'est d'abord une révolution. Donc nous reverrons tout cela la prochaine fois. Donc la prochaine fois, si Dieu veut, donc nous commençons à la page 71, toute une série de considérations un peu plus faciles de saint Thomas d'Aquin qui nous, justement, sur le sens, les différents sens attribués au texte de la Sainte Écriture, le sens allégorique, le sens moral, le sens anagogique, des choses très intéressantes. Donc, relisez, je vous conseille de bien relire dans toutes ces pages du polycopié un petit peu de temps cette semaine avant le prochain cours. Donc, relisez les pages du polycopié à partir du bas de la page 65, le traité sur les lois, le début du traité sur les lois, jusqu'au haut de la page, jusqu'en bas de la page 70. Donc, page 65 dans le polycopier en bas, traité sur les lois, jusqu'en bas de la page 70. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Thomas d'Aquin, veillez sur nous. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.